Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'histoire d'une famille qui court sur presque un siècle, de 1940 à 2022, où à travers trois générations défile le temps de la guerre, de l'indépendance, de la modernité. Et après les deux premiers volumes de cette saga qui, entre le Maroc, la France et les États-Unis, dit le monde et le chagrin, vient de paraître le dernier tome de cette trilogie, Le Pays des Autres, sous le titre J'emporterai le feu chez Gallimard. Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez bien, pour commencer, nous rappeler peut-être ce qu'était le moteur, le déclencheur de ce projet au long cours, de ces trois romans qui vous occupent depuis un certain nombre d'années ?
Ah, le moteur, il est assez complexe, il est de plusieurs ordres. D'abord, un moteur qui était d'un ordre plutôt intime, la volonté d'essayer de répondre à une question qui me paraissait insoluble, celle de qui j'étais, celle de la réponse en fait, que je pouvais apporter aux gens qui me demandaient quelle était mon identité, d'où je venais, où est-ce que je me sentais à ma place, quelle était ma maison, dans une époque où j'avais le sentiment qu'en plus, tous les questionnements sur l'identité devenaient de plus en plus simples, de plus en plus caricaturaux. J'avais l'impression de pouvoir ou de devoir essayer d'offrir quelque chose comme une forme de définition à la fois plus nuancée, plus moderne, plus mouvante de l'identité. Et puis un moteur qui était un moteur littéraire. J'avais envie finalement d'essayer d'écrire une sorte de grand roman marocain contemporain, un roman universel qui puisse rentrer dans les canons de ce qu'on appelle la grande littérature universelle, et donc un roman sur le temps long, sur une famille et des personnages, voilà, depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, pour essayer de donner sur un pays du Sud, le Maroc, un regard différent, beaucoup moins exotique et beaucoup moins caricatural que celui qu'on peut souvent avoir.
Donc une trilogie sous le titre générique Le Pays des Autres. Qui sont les autres ?
Les autres, ce sont ceux d'abord qui, ça peut être ceux qui nous dominent. Donc, de dire le pays des autres, c'est avoir le sentiment d'être dans une situation de dominer, puisque ce pays n'est pas le nôtre. Donc, ça peut être l'exil. Le personnage de Mathilde, par exemple, lorsqu'elle arrive d'Alsace et qu'elle se retrouve au Maroc dans les années 40, elle vit dans le pays des autres. La colonisation aussi, c'est d'une certaine façon le pays des autres. C'est que d'un coup, dans votre pays, vous n'êtes plus chez vous, vous êtes dans le pays des autres, puisqu'il est dominé par d'autres. C'est le pays des hommes du point de vue des femmes, c'est le pays des adultes du point de vue des enfants, et c'est peut-être plus largement le pays de l'écriture, puisque le pays de l'écriture, c'est le pays des autres, de l'altérité. Et au fond, je dirais que la résolution à la fin, c'est de dire que oui, nous sommes tous dans le pays des autres, nous vivons d'ailleurs nous-mêmes plein des autres, nous sommes constitués par cette altérité, donc le pays des autres, c'est la condition humaine.
Donc plongeons-nous maintenant dans ce troisième volume, J'emporterai le feu. Donc après Mathilde et Amine, les grands-parents, Aïcha et Mehdi, les parents, voici Mia et Inès, leurs deux filles, qui naissent à Rabat dans les années 70 et 80. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'écrire une époque que vous avez connue, dont vous êtes contemporaine ?
C'est différent. Les difficultés ne sont pas les mêmes. Les difficultés d'écrire sur des périodes qu'on n'a pas connues, ce sont des difficultés d'ordre documentaire, des difficultés de cohérence, d'effet de réel qu'on doit réussir à créer, et puis d'une certaine façon de fidélité à des époques que pourtant on n'a pas connues. Je crois que la difficulté d'écrire sur une époque qu'on a connue, c'est une difficulté plus d'ordre intime. C'est difficile parce que ça remue des choses et qu'au fond, on a beaucoup plus peur de ne pas réussir à avoir une espèce de distance, une espèce d'objectivité qui est plus facile à avoir sur des époques qu'on n'a pas connues parce qu'on est en recul et qu'on a une capacité d'analyse qui est plus grande, alors que sur une époque qu'on a connue, on a un peu peur de s'y perdre. Et puis paradoxalement, je dirais que quand je travaillais sur la colonisation ou ensuite sur la décolonisation, je trouvais beaucoup d'échos avec le présent. Il y avait plein de choses où je me disais, ah bah finalement, ça n'a pas changé. Ou il y a des choses, voilà, dans lesquelles je me reconnaissais. Alors que là, sur cette époque pourtant plus proche et que j'ai vécue, j'avais beaucoup plus le sentiment d'un monde qui était perdu. Et donc, la nostalgie que je ressentais était beaucoup plus grande.
Donc, rappelons le contexte, une famille aisée, propriétaire, marocaine et française, donc par Mathilde, la grand-mère qui vient d'Alsace, Aïcha, qui est médecin, gynécologue, Mehdi, qui est un économiste brillant et un grand lecteur, on y reviendra. Et donc, dans ce milieu plutôt privilégié, on est surpris de voir quand même une espèce de peur qui reste en sourdine, et j'en veux pour preuve cet extrait. On est page 66, c'est Aïcha qui s'exprime, en tout cas à travers vous. Elle parle de ses filles qu'elle met en garde contre les dangers du monde. Elle leur inocula la frousse comme on injecte un vaccin. Elle leur apprit à parler bas, à ne jamais donner leur avis, à haïr toute forme d'imprudence. Un peu plus loin, elle voulait des enfants lâches à qui ne viendrait pas l'idée de s'indigner, de se révolter, de parler trop haut. Fermez les guillemets. C'est assez inattendu, cette réflexion de cette femme médecin qui, en même temps, on a l'impression, veut couver ses filles.
Oh, moi, je ne trouve pas ça inattendu. Je trouve ça, au contraire, très attendu. Je trouve que la plupart des gens préfèrent, je ne sais pas, la sécurité à l'indignation ou à la révolte. Sinon, je crois que beaucoup de gens seraient en train de se révolter. Beaucoup de gens ont peur. Et de la part d'une mère, pour moi, ça n'est pas du tout étonnant d'avoir envie d'abord que ses enfants soient en sécurité.
Oui, mais dire à ses filles de parler bas.
Bah évidemment, dans une société où la liberté d'expression n'existe pas et dans une société qui est une société de la répression, si vous voulez vous protéger vos enfants, vous ne pouvez leur dire que ça. Vous les prévenez contre les risques de s'exprimer, les risques de se révolter, et vous les prévenez contre le fait que le prix à payer est très très lourd. Donc évidemment, c'est aussi, j'allais dire, la force diabolique de ces régimes-là, c'est que tout le monde finit par en devenir complice. La peur, c'est quelque chose qui finissant par s'insinuer partout, jusque dans l'intimité, devient l'allié du régime. Ces régimes-là survivent par la peur.
Donc en effet, c'est ce que vous nous dites en creux, c'est que c'est une époque où les filles sont encore, subissent encore les injections sociales et morales de la société dans laquelle elles vivent, dues à leur genre, tout simplement d'être fille. Est-ce que vous en avez souffert, vous, Leïla Slimani?
Moi, je ne crois pas que ce soit seulement les filles. Je pense qu'à cette époque-là, tout le monde souffrait de ça. Le personnage, par exemple, de Mehdi, ou même le personnage de Selim, qui est parti, lui, justement, parce qu'il ne veut pas subir ça. C'est d'abord une condition politique. C'est leur condition d'abord de citoyen qui fait ça. Ensuite, c'est le fait qu'ils vivent dans un milieu très, très particulier, un milieu qui est un peu dans une sorte de bulle, un peu séparé du reste de la population marocaine, dans la mesure où eux, à l'intérieur de chez eux, dans leur espace privé, ils défendent des valeurs de liberté d'expression, ils mangent ce qu'ils veulent, ils boivent ce qu'ils veulent, ils ont envie d'avoir une vie très libre, et donc pour préserver cette liberté-là, il faut qu'ils acceptent aussi une certaine hypocrisie, c'est-à-dire qu'on peut faire à l'intérieur des choses et puis à l'extérieur, on ne peut pas. Alors après, bien sûr, quand on est une femme, il y a des restrictions supplémentaires qui sont liées à la liberté du corps, à la liberté de vivre, par exemple, sa sexualité. Les hommes ont plus le droit à une certaine prise de risque et au monde extérieur. Ça, oui, d'une certaine façon, j'en ai souffert, mais ça s'est mêlé au contexte politique. Les deux étaient très, très liés, à la fois la souffrance de femmes, mais aussi la souffrance de ne pas pouvoir vivre dehors, finalement à l'aune des valeurs qui pourtant étaient les nôtres et qui pourtant nous étaient enseignées, et de ne pas comprendre pourquoi il fallait vivre dans ces deux réalités.
Alors effectivement, cette hypocrisie, elle est exprimée par Mia, la fille aînée, dans ce passage très particulier où vous écrivez « Ne pas parler de Saba qui vit avec un homme sans être marié, ne pas dire qu'Aïcha ne fait pas le ramadan, ne pas parler de l'alcool qu'on boit, de la charcuterie que mange Mathilde, parfois même pendant les fêtes musulmanes, ne pas raconter qu'un jour pour le nouvel an, papa s'est déguisé en femme, ne pas dire, ne pas parler, et ça continue assez longtemps. » C'est un paragraphe où on sent de la colère. Est-ce que vous étiez aussi un peu en colère, Leïla Slimani?
Oui, je pense qu'à l'époque j'étais en colère parce que je ne comprenais pas, et parce que je ne comprenais pas pourquoi, si on pensait qu'on avait raison et si on pensait que nos valeurs étaient bonnes, pourquoi est-ce que c'était à nous d'avoir peur? Pourquoi est-ce que c'était à nous de nous cacher? Pourquoi c'était à nous de faire semblant et d'accepter cette hypocrisie? J'avais évidemment l'idéalisme de mon âge, et j'avais la révolte de mon âge. J'étais moins capable, par exemple, qu'aujourd'hui de comprendre que la vie est aussi faite de compromis, parfois même de compromissions. Aujourd'hui encore, il y a, c'est une société, et je le dis sans aucun jugement, parce que le jugement ne m'intéresse pas, c'est pas une question de jugement. La société marocaine est une société extrêmement complexe, dans laquelle il est admis, il est finalement intégré par chacun, la différence entre ce qu'on fait chez soi et ce qu'on fait dehors, sur le fait que tu peux faire ce que tu veux, mais il faut le faire caché. Alors évidemment, ça provoque, chez des gens comme Mia ou des gens comme moi, ça provoque beaucoup de révolte, mais c'est une sorte de manière de vivre que beaucoup de gens intègrent et que d'autres ne peuvent pas supporter.
Vous parliez de la sexualité des filles, et ici, Mia, qui préfère les femmes, en effet, est obligée de se cacher. Elle ne peut pas imaginer vivre sa sexualité au grand jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, Leïla Slimani, il faut toujours travailler cette question et l'écrire dans les romans.
Moi, je dis jamais il faut. Je suis pas en position d'injonction. Chaque écrivain fait ce qu'il veut. Chaque artiste fait ce qu'il veut. Moi, je fais ce que je pense devoir faire ou pouvoir faire. Parce que la littérature et l'art doivent rester des espaces de liberté. On n'est pas là pour imposer aux gens des thèmes ou des questionnements. Mais en tout cas, il m'est apparu intéressant. D'abord, je savais que ce personnage était homosexuel. Elle m'est toujours apparue comme ça. Donc, j'ai jamais questionné sa sexualité de la même manière que je savais que Aïcha était hétérosexuelle. Donc, je l'ai traité avec la même, de la manière aussi naturelle, même si d'un coup des obstacles sont arrivés immédiatement sur la route de Mia du fait de cette sexualité-là. Et puis c'était aussi une manière pour moi de rendre hommage au monde dans lequel j'ai vécu à cette époque-là, à l'époque de mon adolescence, qui était un monde dominé par des figures homosexuelles, puisque la plupart de mes amis étaient homosexuels, et que je pense qu'il y avait une très grande complicité entre les jeunes femmes comme moi qui avaient décidé de vivre leur vie et d'assumer une certaine liberté, et les homosexuels, puisque tous les deux groupes, on avait des sexualités qui étaient interdites. Et donc la culture queer était une culture qui pouvait répondre d'une certaine façon à ce qu'on ressentait, parce que c'était une culture de la confusion, une culture de l'instabilité. C'était l'époque de Mylène Farmer, de George Michael, de tout ça. Donc entre garçons et filles, entre noirs et blancs, entre le clair-obscur, et pleine de panache et en même temps de mélancolie. C'était aussi l'époque du sida, donc il y avait quelque chose de l'ordre du désespoir. Et donc c'était aussi pour moi une manière de rendre hommage à cette culture queer qui a été fondatrice pour moi et pour ma liberté.
Vous avez été une jeune fille transgressive, Leïla Slimani ?
Je suis pas capable de le dire. Je pense que oui, mais j'aime pas. D'une part, j'aime pas trop les étiquettes, et puis j'aime pas. L'interprétation à laquelle ça peut porter, c'est-à-dire j'étais la jeune fille maghrébine qui a décidé de se révolter, truc. Non, j'ai vécu ma vie de femme, j'ai vécu ma vie de femme libre, comme l'ont vécu plein de femmes libres autour de moi. Je pense qu'il n'y a pas une femme au Maroc qui n'a pas, à un moment ou à un autre, dû jouer avec une forme de transgression, quelle qu'elle soit, parce qu'on est obligé de transgresser. Alors on transgresse, c'est plus ou moins grand, et puis on a plus ou moins la possibilité de transgresser aussi selon son milieu social, parce que la question elle est toujours aussi d'abord et avant tout sociale, et elle dépend des moyens que vous avez. Pour moi j'ai eu le luxe de transgresser, parce que mes parents m'ont permis aussi ces transgressions, m'en ont donné les moyens. Mais je peux vous assurer que des femmes dans des quartiers populaires qui vivent des vies très très difficiles, et elles transgressent tout le temps, et elles essayent et elles contournent. Donc je ne veux pas me mettre moi dans la position de l'écrivaine qui a transgressé. Je crois que mes transgressions au fond, à moi, elles ont été beaucoup plus simple que celle de beaucoup d'autres femmes, pour qui c'est peut-être plus invisible, mais non pas moins fort et moins important.
Vous citiez quelques musiques tout à l'heure dans notre conversation. Alors effectivement, c'est l'heure de la pause musicale. Il se trouve que dans votre récit, qui est aussi le portrait d'une époque, vous citez Louis Armstrong, Jacques Brel, la chanson Le Blues du Businessman, Ashmahan aussi. Est-ce qu'il y a un titre, un morceau que vous aimeriez qu'on écoute maintenant sur RFI ?
Bien, moi j'aime bien ce qu'écoute souvent Mia, c'est Tracy Chapman. Donc elle écoute souvent Fast Car, qui est une chanson qui lui donne envie de partir, de prendre une voiture qui va très vite pour aller vivre sa vie ailleurs et prendre des risques, justement à l'inverse de ce que sa mère essaye de lui enseigner.
Très bien, mais on écoute tout de suite avec vous Tracy Chapman.
You got a fast car, I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal, maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
You got a get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, d'ailleurs cité dans le livre de notre invitée aujourd'hui, Leïla Slimani, qui vient de publier le dernier volume de sa trilogie romanesque « Le pays des autres ». Ici, c'est le troisième titre « J'emporterai le feu » aux éditions Gallimard. Peut-être on peut s'arrêter sur ce titre puisque c'est un emprunt, une citation de Jean Cocteau. Pourquoi est-ce que vous avez voulu cet intitulé ?
Alors c'est une réponse que Jean Cocteau effectivement donnait à une question qu'on lui posait, si votre maison brûlait, qu'emporteriez-vous ? Et il a répondu, j'emporterai le feu. D'abord j'aimais le panache de cette phrase, et puis elle m'a vraiment, elle m'a frappée immédiatement par voilà, toute sa portée symbolique et poétique, puisque c'est un livre qui parle de ce qu'on emporte avec soi quand on s'en va. C'est un livre qui est plein de départs physiques, de déplacements, mais aussi de départs parce qu'il y a des gens qui meurent. Et donc, c'est un livre qui pose la question de, voilà, qu'est-ce qui reste de ce qui a disparu de nos enfances, de nos passés, des choses qui ont brûlé parce que le temps, voilà, les a fait brûler. Qu'est-ce qu'on emporte avec soi dans l'exil? Qu'est-ce qu'on emporte de ceux qui ont disparu et avec qui la conversation s'est interrompue? Et je crois que finalement, cette image du feu, c'est-à-dire, ça peut être la colère, ça peut être la vengeance, mais ça peut être aussi l'amour, quelque chose de ce feu intérieur qui se transmet de génération en génération et qui finalement fait l'identité d'une personne, d'une famille, cette chose indéfinissable qui peut nous brûler mais aussi nous réchauffer. Eh bien, c'est ça sans doute qu'on emporte.
Donc on l'a dit en première partie, une famille et à chaque génération, l'envie d'écrire. Mathilde, la grand-mère qui tape sur sa machine à écrire, comme Mia peut en être témoin. Mehdi, le père de Mia et de Inès, qui lui est un immense lecteur et qui passe son temps à offrir des livres à sa fille, Le Hussard sur le toit par exemple, mais aussi Marguerite Duras, des livres vraiment d'une très grande qualité, qui lui aussi sans doute a des velléités d'écrivain. Il va essayer de faire un manuscrit, mais finalement c'est Mia, la troisième, qui va devenir écrivaine. Et alors c'est très drôle d'ailleurs parce que au début de ce troisième volume, donc nous sommes en 2021-2022, donc elle est autrice à succès et quelqu'un la reconnaît, lui dit « Ah oui, vous avez le prix, sans doute le prix Goncourt comme vous, Leïla Slimani en 2016 avec une chanson douce. » Mais je me disais, Mia, il s'appelle Daoud, vous étiez comme Kamel Daoud qui a eu le prix Goncourt cette année en 2024. Vous avez eu une prémonition pour votre confrère algérien ?
Non, c'était pas une question de prêt. J'avais écrit un peu avant, mais en tout cas, le nom n'est pas tout à fait indifférent à Kamel. Je lui avais demandé si je pouvais utiliser ce nom. Puis la femme de Kamel s'appelle Aïcha, comme le personnage d'Aïcha Daoud. Donc c'était un clin d'œil, une sorte de dialogue intime entre deux écrivains qui s'aiment beaucoup.
Donc le père, Mehdi, dit à sa fille, tu seras écrivain. On vous l'a dit, vous aussi, Leïla Slimani ?
Oui, absolument. Oui, on me l'a dit. Et j'ai toujours pensé que ce serait vrai.
Et quand votre père vous le dit, donc j'imagine, tout de suite vous adhérez à cette idée ?
Ah oui, absolument. D'abord parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de plus belle vie que la vie d'écrivain. Ça me semblait la vie la plus désirable au monde, une vie intellectuelle riche, une vie d'aventure, une vie plus grande que la vie, une vie augmentée, c'est-à-dire une vie dans laquelle il y a plein d'autres vies, et ça me paraissait très très enviable. Et donc quand mon père m'a dit ça, et mon père qui avait une telle admiration justement pour la littérature et pour les écrivains, qui puisse penser que moi, voilà, la petite fille que j'étais dans ce monde, en plus c'est dans ce contexte qui me paraissait tellement éloigné du monde de la littérature. J'avais l'impression que moi, venant de Rabat, qu'est-ce que j'allais pouvoir bien faire pour devenir une écrivaine et pour vraiment réussir à publier. Ça me paraissait impossible, et je ne sais pas par quelle folie ou inconscience j'ai pensé à un moment que c'était possible.
Mais qu'est-ce qu'il avait vu en vous qu'il n'avait pas vu peut-être chez ses autres enfants ? Comment est-ce qu'il a su que vous aviez cette fibre-là ?
Oh, je sais pas si...
Vous écriviez, par exemple ?
Je sais pas si vraiment il l'a su. C'était peut-être quelque chose plutôt de l'ordre d'un test ou une manière de parler. Et moi, je me suis accrochée à ça pour des raisons intimes et peut-être par désir aussi de lui plaire, par désir qu'il continue à me porter ce type d'intérêt. Mais j'étais une enfant qui parlait beaucoup. J'étais une enfant qui était très habitée par beaucoup d'histoires, j'avais un appétit pour la lecture et un appétit pour la fiction de manière générale qui était très 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 marqué, donc c'est peut-être ça qu'il a vu en moi.
En 1989, Mia voit Salman Rushdie pour la première fois à la télévision, puisqu'en effet c'est l'année où la fatwa est sur sa tête, et là elle s'interroge, elle a 15 ans, et elle se dit, est-ce que je serais capable de mourir pour des idées ? Est-ce que c'est une question à laquelle vous avez une réponse maintenant, vous, Leïla Slimani ?
Pas une réponse définitive. Non, j'ai pas de réponse définitive.
Enfin, on peut admirer quelqu'un qui, pour ses idées, justement, continue d'écrire quoi qu'il en soit.
Oui, oui, mais moi, j'écris pas pour mes idées. J'écris parce que si j'écris pas, je meurs. Voilà, j'écris pas pour mes idées. J'écris parce que je ne peux pas faire autrement que d'écrire. Et à partir du moment où j'écris, je ne peux pas mentir. Donc mes idées et ma vision du monde s'expriment. Mais je n'écris pas pour mes idées. J'écris parce que je dois écrire comme je dois respirer, marcher, voilà.
J'avais pas mesuré l'urgence de l'écriture chez vous de cette manière-là.
Ah mais moi je ne fais rien d'autre, je ne fais que ça, je ne fais que écrire. Je sais pas, en 10 ans j'ai pratiquement publié 10 livres, je ne pense qu'à ça, je rêve de ça quand je dors, même quand je parle avec les gens, je pense au fait d'écrire. Tous les moments que je vis sans écrire, enfin beaucoup de moments, pas tous, mais beaucoup me paraissent des moments perdus, des moments inutiles.
Donc il y a un peu un pouvoir magique de la littérature, comme quand Mehdi dit que les livres sont des capes d'invisibilité pour les filles et qu'elles les protègent et les rendent inaccessibles au malheur.
Mais je crois que le pouvoir magique, il est en nous, c'est-à-dire que ce pouvoir de l'imagination, ce pouvoir à un moment de pouvoir échapper au réel, de dire que nous ne sommes pas l'esclave du réel, d'être capable de dire « et si ». Et si ça se passait autrement ? Et si j'étais ceci, cela, et on peut tout recommencer ? Je crois que la liberté, elle commence comme ça, elle commence avec un « et si », la possibilité d'inventer d'autres chemins. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que les dictateurs ou les régimes autoritaires détestent les écrivains ou détestent la fiction de manière générale, parce que la fiction, c'est une manière de dire « nous ne sommes pas obligés d'accepter le réel tel qu'il est, le réel pourrait être autrement, il a pu être autrement que ce qu'on vous raconte. On peut traverser effectivement le miroir, on n'est pas obligé simplement de regarder son reflet, il y a tout un monde derrière le monde. »
Alors ce livre se finit sur la mort du père, c'est un grand moment d'intimité qu'on peut toutes et tous partager. Hélas, est-ce que d'une certaine façon c'est la clé aussi de l'écriture de tout ce livre, dire le scandale injuste de la mort de nos pères ?
En tout cas, oui, essayer de donner une forme à ça, essayer de donner une forme au chagrin, essayer de donner une forme à l'injustice, sortir de l'enfance d'une certaine façon. Les enfants, face à l'injustice, vous voyez, ils tapent des poings, ils tapent des pieds en disant « mais pourquoi, c'est injuste ?» Et devenir adulte, c'est être capable aussi d'embrasser cette injustice, de comprendre que la condition humaine, elle est faite du départ des gens qu'on aime, du fait que c'est pas toujours les gentils qui gagnent à la fin, que la vie est faite aussi de situations injustes contre lesquelles on a le sentiment de ne rien pouvoir. eh bien peut-être que l'art nous donne une forme de pouvoir là-dessus, le pouvoir de les raconter, d'en extraire une forme de beauté, d'en extraire aussi l'amour, de pouvoir donner aussi une forme aux loyautés qui s'expriment dans ce genre de moments. Donc oui, je crois que ça permet en tout cas ça à la littérature.
La tante Selma dit « Il y a trois choses importantes dans la vie, bien boire, bien manger et se venger ». Vous en êtes où de cet adage, vous, Leïla Slimani ?
C'est un adage que je trouve amusant parce que là encore, j'en aime le panache. Je peux comprendre cette dynamique que je trouve assez, j'allais dire, romantique, belle, virevoltante. Mais je pense que la vengeance, elle ne peut avoir qu'un temps. Quand elle s'étend trop dans le temps, elle devient une forme de folie et elle se mue dans la haine. On devient le propre otage de son désir de vengeance et on finit par s'aveugler et par devenir fou.
Alors, il y a une autre vengeance, moi, que j'aime beaucoup aussi dans votre roman, Leïla Slimani, dans cet extrait. Au Maroc, il n'y avait pas de meilleur endroit pour vieillir. On n'enfermait pas les vieux dans des maisons de retraite. On ne les abandonnait pas dans des hospices aux mains d'inconnus qui n'avaient pour eux ni considération ni tendresse. Pour une femme, vieillir était la meilleure des vengeances, car on se faisait enfin respecter. Les gens vous embrassaient l'épaule et vous bénissaient. Une fois les seins taris, le sexe cousu, le visage raviné par les rides et les soucis, on acceptait enfin de vous prendre au sérieux. Au crépuscule de votre vie, on finissait par reconnaître que oui, vous aviez beaucoup donné et qu'il en avait fallu de l'endurance et de la tendresse pour que des enfants grandissent et qu'ils aient eux-mêmes des enfants. Ça, c'est une formidable vengeance, non ?
Oui, absolument, mais c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappée, auquel j'ai repensé comme ça en écrivant le livre, c'est que je crois que les personnes qui m'ont fait le plus peur et qui m'ont le plus impressionnée quand j'étais petite, ce sont les vieilles femmes. Et même les hommes, c'est-à-dire même les hommes adultes, devant leur mère, devant leur grand-mère, étaient toujours très, très, très... redevenaient comme des enfants, à toujours dire oui, bien sûr. Et puis la figure voilà, de la mère très âgée, à qui on doit tout, que l'homme, parfois même qui a du pouvoir, vient embrasser effectivement sur l'épaule ou sur le front. Et donc j'ai perçu ça d'un coup, je me suis dit mais en fait pour ces femmes-là, d'un coup la vieillesse est une vengeance où enfin on reconnaît tout ce que vous avez donné dans votre vie et dès l'instant aussi où vous n'avez plus ce soupçon de la sexualité ou du désir autour de vous et où en plus vous avez accompli votre mission de mère, eh bien vous êtes surélevé, voilà, vous êtes élevé comme ça à un rang d'autorité qui est effectivement une forme de vengeance sur la façon dont la société est construite.
Du coup, vous vous imaginez vieillir au Maroc, Leïla Slimani ?
Faudrait déjà que je m'imagine vieillir. Hein. Alors, non, je ne m'imagine pas encore vieillir.
Le plus tard possible. Qui est la jeune fille en photo sur la couverture ?
C'est moi à l'âge de 18 ans.
Et vous avez choisi cette photo, pourquoi ?
D'abord parce que le livre est construit sur une espèce de confusion que j'alimente tout le temps entre le personnage de Mia et moi, parce que le lecteur évidemment est amené à penser que Mia c'est moi, même si je partage beaucoup de choses avec elle, elle est en même temps évidemment très différente de moi et puis elle est un personnage de fiction, mais en même temps elle vient de quelque part et elle vient sans doute de cette époque-là, de cette époque de la fin des années 90 où j'arrive à Paris où j'ai 18 ans et ce moment-là c'est un peu le moment de bascule du livre, c'est ce deuxième grand exil de la trilogie finalement, le premier étant celui de Mathilde et bien le deuxième ce sera le départ des petites filles en France et donc c'est une image à la fois très très mélancolique je trouve dans laquelle il y a pour moi un fond de tristesse et en même temps c'est une photo d'espoir parce que c'est une nouvelle vie qui commence.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Leïla Slimani, je rappelle le titre de ce nouveau roman qui s'inscrit donc dans une trilogie mais que l'on peut lire évidemment tout à fait indépendamment. Mais je pense que si on lit le troisième, on aura forcément envie de lire les deux précédents. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, J'emporterai le feu, qui est apparu aux éditions Gallimard.
Merci.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.